Bien, alors bonjour à tous. Est-ce que chacun m'entend correctement? Bon. Alors vous voyez, Joël a en partie raison et en partie tort. Parce que là où il a raison, c'est que j'ai pris mon nouveau statut de retraité stagiaire. Et là où il a en partie tort, c'est que je me suis un peu rodé à ce nouveau statut dans le Blayais, en Aquitaine. Oui, vous avez peut-être remarqué que notre séjour en Aquitaine était un peu plus long que d'habitude. En fait, j'avais besoin d'arroser mon accent pour ne pas le perdre. Vous voyez ? Alors, le temps de l'Avent, d'après le témoignage que je viens d'entendre, pour moi, au milieu de toutes les mauvaises nouvelles que nous pouvons apprendre, alors il suffit de consulter les médias, accident par-ci, incendie par-là, et j'en passe. L'annonce d'une bonne nouvelle, au-delà de toutes ces mauvaises nouvelles que nous entendons. Mais que signifiait l'Avent pour tout un peuple ? Pour tout un peuple qui attendait depuis longtemps, 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 la venue d'un Messie dont ils avaient entendu parler. Cela signifiait une immense espérance, espérance nourrie par des messages prophétiques, et l'un d'entre eux a été délivré par un prêtre nommé Zacharie, prêtre qui est devenu le père de Jean, appelé Jean-Baptiste, et ce message prophétique a lieu 8 jours après la naissance de Jean, justement, le précurseur de Jésus, pour préciser un peu le contexte. Alors je vous propose de le lire ensemble, c'est dans l'Évangile selon Luc, au premier chapitre, alors ce sont les versets 67 à 79, Luc 1, versets 67 à 79, voilà. Zacharie, le père du petit enfant, fut rempli du Saint-Esprit. Il se mit à prophétiser en ces termes. Loué soit le Seigneur, le Dieu du peuple d'Israël, parce qu'il est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré. Il a fait apparaître un puissant sauveur pour nous parmi les descendants du roi David, son serviteur. C'est ce qu'il avait annoncé depuis longtemps par ses saints prophètes. Il avait promis qu'il nous délivrerait de nos ennemis et du pouvoir de tous ceux qui veulent nous faire du mal. Il a manifesté sa bonté envers nos ancêtres et n'a pas oublié sa sainte alliance. En effet, Dieu avait fait serment à Abraham, notre ancêtre, de nous libérer du pouvoir des ennemis et de nous permettre ainsi de le servir sans peur, pour que nous soyons sains et justes devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, mon enfant, tu seras prophète du Dieu très haut, car tu marcheras devant le Seigneur pour préparer son chemin et pour faire savoir à son peuple qu'il vienne le sauver en pardonnant ses péchés. Notre Dieu est plein de tendresse et de bonté. Il fera briller sur nous une lumière d'en haut, semblable à celle du soleil levant. Pour éclairer ce qui se trouve dans la nuit et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Or, qui était cet homme, Zacharie ? Or, c'était un prêtre de la tribu de Lévi, marié à Élisabeth, qui était une descendante d'Aaron. C'était un couple déjà âgé, et humainement parlant, c'était impossible pour eux d'avoir un enfant. Humainement parlant, je précise. Mais quelques mois auparavant, l'ange Gabriel avait rendu visite à Zacharie et il lui avait annoncé que son épouse donnerait naissance à un fils. Zacharie avait demandé un signe et il était devenu muet. Et plus tard, ce même ange Gabriel rend visite à une jeune fille parente d'Élisabeth, qui s'appelle Marie. Et il lui annonce qu'elle mettra au monde un fils nommé Jésus. Et dans ces deux visites, l'ange fait la même remarque : rien n'est impossible à Dieu. Et cela m'a conduit à vous proposer le titre de ce message d'aujourd'hui : Dieu, le Dieu de l'impossible. Et un premier aspect que nous trouvons dans ce passage, dans cette prophétie de Zacharie, c'est Dieu fidèle. Dieu qui est intervenu en faveur de son peuple et l'a délivré, où c'est écrit dans des versions plus anciennes, Dieu qui a visité et racheter son peuple. Alors dans l'Ancien Testament, lorsque l'Éternel Dieu visite son peuple, alors c'est soit l'expression d'un jugement, soit une manifestation de sa grâce, bien soit les deux à la fois en même temps. Par exemple, lorsqu'il nous est dit au psaume 78 que Dieu s'est réveillé, il a chassé tous les ennemis et il les a réduits en poussière, l'expression de sa bienveillance envers Israël. Mais de notre côté, il nous est dit qu'il a délaissé la maison d'Éphraïm pour choisir celle de Juda. Il y a aussi l'expression d'un jugement aussi, dont les deux à la fois. Et là, ici, c'était aussi le cas. Dieu visite son peuple, il manifeste sa bienveillance, parce qu'il dit, ce Messie que ce peuple attend depuis tellement longtemps, eh bien, il arrive. En même temps, c'est aussi un jugement parce que le peuple vivait d'abord sous l'oppression de l'empereur romain, mais sous une oppression encore plus grande. C'était l'esclavage du péché, cet obstacle qui ne pouvait pas être aboli autrement que par la venue du Messie. Donc le péché, dans ce qui fait sa force, était jugé. Visiter et racheter. Or, ce mot fait allusion au rachat d'un esclave au moyen du paiement d'une rançon. Et c'est Jésus lui-même, comme nous le savons, qui allait payer la rançon en s'offrant lui-même, en offrant sa vie parfaite sur la croix. Nous avons un rappel de ces promesses qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament. D'abord le Sauveur annoncé, qui est un descendant du roi David. Mais nous avons eu l'occasion de le voir dans nos études bibliques. Le roi David était le roi choisi par Dieu. Et une promesse avait été faite à David de lui donner un descendant qui régnerait sur son trône pour l'éternité. Et cela est par exemple rappelé dans le psaume 132. À Sion, je ferai naître un roi puissant de la descendance de David. Comme une lampe allumée, j'y maintiendrai le roi que j'ai consacré. J'habillerai de honte ses ennemis, mais sa couronne étincellera sur son front. Bien là aussi, dans cette annonce, nous retrouvons cette double dimension de l'annonce de la grâce et l'annonce d'un jugement aussi. Nous retrouvons ici cette double dimension. Ensuite, la réalisation d'une promesse faite à Abraham. Cette promesse avait été faite plusieurs fois, et notamment lorsque Abraham fait serment par lui-même, après qu'il ait vécu cette terrible épreuve avec Isaac, qu'il était invité à offrir, et que finalement, vous connaissez l'histoire, c'est un bélier qui a été substitué à son fils Isaac. Et voilà ce qu'il dit. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre voudront être bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Bien dans notre monde, je ne vous apprends rien. Nous sommes habitués à voir des promesses non tenues. Par exemple, en politique ou ailleurs, je pense qu'il vous est arrivé d'entendre cette phrase un peu provocatrice, « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. » Et dans certaines régions, dans certains coins, lorsque l'on parle d'une promesse à laquelle les gens ne croient pas, eh bien, elle est qualifiée de promesse électorale. Et oui, non, c'est très sérieux. Bien, Dieu ne fait pas de promesse électorale. Zacharie était perplexe. Il a eu besoin d'un signe. Et comme signe, il a reçu celui-ci, c'est qu'il est devenu muet pendant 9 mois. Alors, pour comprendre ce signe, bon, Zacharie, c'était quelqu'un chargé d'enseigner le peuple. Donc, quelqu'un censé connaître les Écritures, censé connaître aussi plusieurs exemples de personnes qui, humainement parlant, étaient stériles, ne pouvaient pas avoir d'enfants, et qui, grâce à Dieu, ont vaincu leur stérilité. Zacharie était censé connaître les exemples de Sarah, de Rebecca, de Rachel, ou bien d'Anne, la mère du prophète Samuel. Donc il était censé connaître que impossible n'est pas Dieu. Et pour nous, nous sommes invités à nous interroger, à nous demander, lorsque j'entends ce matin « Impossible n'est pas Dieu », eh bien comment cela réagit à moi, dans ma personne, dans mon esprit, dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme? Comment cela réagit lorsque j'entends « Impossible n'est pas Dieu » ? Un autre aspect qui complète ce premier, Dieu fidèle, c'est aussi Dieu qui est maître du temps. Pourquoi ? Nous remarquons qu'entre la promesse faite à Abraham et l'annonce de sa réalisation, bien au moins 2000 ans se sont écoulés. Bien Dieu n'a pas la même mesure du temps que nous. Puisque nous apprenons que 1000 ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier quand il n'est plus. Il veut dire Dieu n'est pas pressé. Dieu accomplit ses promesses dans un temps qui n'est pas le nôtre. En effet, parce qu'il est maître du temps. Le nom de Dieu dans lequel il se présente à Moïse dans l'Ancien Testament, ce que nous traduisons par l'Éternel, ou Seigneur selon les versions, ce nom signifie « je suis ». C'est-à-dire « je n'ai pas de commencement, je n'ai pas de fin ». C'est traduit dans l'Apocalypse « celui qui est, qui était » et qui viennent. Donc Dieu éternel, quelqu'un à qui le temps appartient. Et dont nous pouvons mieux comprendre que ses promesses s'accomplissent dans le temps qui est le sien, et pas le nôtre forcément. Et là nous remarquons aussi un décalage avec notre société aujourd'hui. Notre société qui est parfois celle du tout et tout de suite. La société qui est un peu celle du distributeur automatique. Vous le savez, nous mettons une pièce, ou bien plus moderne, notre carte bancaire, dans le distributeur. Nous appuyons sur une touche et la boisson, le Perrier ou la canette de bière ou le Coca-Cola sort et nous le récupérons dans une trappe. Notre société, c'est un peu ça. Et là où il y a un énorme décalage, c'est que Dieu n'est pas, mais absolument pas, un distributeur automatique de bénédictions. Ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu. Et là, nous avons besoin de retrouver une certaine sagesse qui était celle de l'Ecclésiaste, qui a vécu peut-être environ au moins 1000 ans avant Jésus, ce qui fait peut-être 3000 ans avant nous, et qui nous dit « Dieu fait toutes choses belles en son temps ». Peut-être nous connaissons ce chant « en son temps ». Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Et peut-être posons-nous cette question. Si Dieu n'avait pas pris patience envers nous, comment aurions-nous pu recevoir le salut en reconnaissant Dieu comme Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur? Ce qui veut dire, si Dieu n'avait pas pris patience envers moi, où serais-je aujourd'hui? Peut-être pas ici. Donc ce qui nous invite à voir aussi un Dieu bienveillant. En effet, la patience de Dieu témoigne de cette bienveillance. Elle témoigne de sa grâce d'un certain... Dans certaines versions plus anciennes, c'est écrit « sa miséricorde » aussi. Et un autre aspect de cette bienveillance de Dieu, nous l'avons peut-être un jour vécu, un jour ou l'autre, nous nous posons des questions sur telle ou telle chose, nous demandons à Dieu pourquoi ceci, pourquoi cela. Eh bien, Dieu ne répond pas tout de suite. Dieu reste silencieux. Et nous sommes confrontés à ce silence de Dieu que parfois nous pouvons trouver pesant. Mais lorsque la réponse de Dieu vient, cela produit le même effet qu'une bombe dans notre jardin. Alors qu'est-ce qui se passe en fait ? Bien, Dieu est patient et dans sa bienveillance, bien parfois, il attend que nous soyons assez costauds pour encaisser la réponse qu'il va nous faire. Parce qu'il sait très bien que cette réponse va nous secouer. Il attend que nous soyons assez costauds pour encaisser le choc. Nous l'avons dit, nous l'avons proclamé plusieurs fois, et là je ne vous apprends rien, Dieu désire le meilleur pour nous, ses enfants. Et le meilleur qui est exprimé ici, la possibilité de le servir librement, en étant libéré de toute peur ou de toute crainte, en étant saint et juste devant lui. Alors nous parlons beaucoup de la sainteté, mais quelquefois nous pouvons nous poser la question, la sainteté, qu'est-ce que c'est exactement ? Ou dit autrement, la sainteté, qu'est-ce à quoi ? Et je vous propose cette définition que j'ai lue récemment et que je vous retransmets. La sainteté, c'est la résurrection dans l'homme pécheur de l'état d'innocence du premier être humain avant la chute. Je le répète, c'est la résurrection dans l'homme pécheur de l'état d'innocence du premier homme, du premier être humain, avant la chute. Ni plus, ni moins. Alors nous comprenons que c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup de baguette magique, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, avec patience, selon ce que nous sommes nous-mêmes, êtres humains, en mesure de vivre. Et la bienveillance de Dieu pour nous se manifeste aussi concrètement parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Là, ici, Zacharie, papa, il parle à son fils Jean, qui est âgé de 8 jours. Et il lui dit, tu seras prophète. Et quelle est sa mission ? Lorsque nous apprenons sa mission, marcher devant le Seigneur pour préparer son chemin, être le précurseur du Messie qui va venir. Et nous apprenons quelques informations précieuses sur sa mission dans les derniers versets du prophète Malachie. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive, ce jour grand et redoutable. Et là, écoutons la suite, tendons bien nos oreilles. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Donc une très lourde mission, c'est-à-dire susciter la repentance parmi ce peuple d'Israël, afin que le pays ne devienne pas interdit, c'est-à-dire qu'il ne devienne pas un champ de ruines. Lorsqu'une ville de l'Ancien Testament était frappée d'interdit, lorsqu'une population était frappée d'interdit, bien c'était la ruine, c'était le peuple qui était mis à mort pour un pays en ruine. Nous employons parfois le mot de désolation. La ruine, c'était la désolation. L'interdit, c'était la désolation. Donc, ce futur prophète, Jean, avait cette lourde mission d'éviter que ce pays devienne désolation. Et pour nous aussi, Dieu désire nous éviter la désolation dans notre cœur. Cela, c'est la bonne nouvelle, et il nous donne le moyen pour que notre personne ne devienne pas désolation, et au contraire qu'elle soit entièrement restaurée et que Dieu y habite. Voilà pourquoi nous apprenons qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. Voilà de quoi aussi alimenter notre attente pour nous dans ces temps de l'Avent, restaurer aussi notre espérance. Et nous apprenons aussi que Jean, le fils de Zacharie, a eu besoin de 30 ans, ou peut-être plus, pour entrer dans ce plan de Dieu et accomplir sa mission. Et pour nous-mêmes, si nous appliquons cela à nous-mêmes, nous avons un jour accordé notre confiance à Jésus-Christ, nous avons proclamé qu'il est notre Sauveur, notre Seigneur. Donc, nous sommes nous-mêmes passés par la nouvelle naissance. C'est ce que nous entendons lorsque nous écoutons les témoignages de personnes qui se font baptiser. Donc, nous sommes passés par cette nouvelle naissance. Eh bien, Dieu a un plan pour nous. Et nous avons peut-être besoin de temps d'abord pour en prendre conscience, ensuite peut-être nous-mêmes pour accepter ce plan, peut-être nous former aussi en vue de la mission qui nous est confiée, nous-mêmes entrer en prière pour accomplir cette mission, recevoir la force dont nous avons besoin. Alors je vous propose de conclure en écoutant un chant qui résume fidèlement ce que nous venons de partager. Le Dieu de l'impossible, Dieu fidèle, Dieu maître du temps et Dieu bienveillant. Alors je vous propose d'écouter ce chant qui s'appelle « Après la longue attente » sur une mélodie de 1524. Nous allons l'écouter, il va passer dans les haut-parleurs et les paroles seront affichées ici sur les écrans de manière que vous pourrez suivre. Donc, le vœu que je formule, c'est que ce chant parle à chacun d'entre nous. Amen.